Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter. Salut Alex.
Ah Constance, te voilà.
Quoi, j'ai fait une bêtise? Ah oh, c'est vrai, j'ai encore oublié de mettre une culotte.
Mais non.
Mais si, j'ai oublié.
Non mais c'est pas le problème, non, l'heure est grave Constance, il en va de la survie de l'émission.
Qu'est-ce qui se passe?
Bon, et ça reste entre nous, je profite que Charline soit pas là, mais j'ai besoin de pimper l'émission si tu veux.
Ah ouais? Tu dis ça parce que j'apporte une touche fleurie et champêtre à votre accoutrement gris?
Mais non, mais t'es en radio, on s'en fout de la manière dont t'es habillée, sinon Pablo aura pas fait une demi-saison.
C'est l'hôpital qui se fout de la charité.
Oui, enfin,
hein.
En tout cas, c'est pas le problème, voilà. Nous, ce qu'il nous faut, c'est un peu de fantaisie, hein, voilà, on est au bout de 5 ans, nos blagues s'épuisent, il faut de la chair fraîche, voilà.
Alors évidemment, t'as pensé à moi.
Ben oui, t'as pas une idée pour renouveler un peu l'émission?
Si, si, on a qu'à trouver un chroniqueur animalier. Ah. Tu sais, les animaux sont doués de conscience.
Oui, oui. Enfin, d'ailleurs, aujourd'hui, pour le premier best-of, on va réécouter ta chronique sur les baleines.
Ah, enfin... chic!
Oui, enfin, en attendant, est-ce que t'as pas une autre idée mieux?
Bah, maintenant que tu le dis, il y a bien quelqu'un qui ralentit un peu l'équipe. Ah. Tu vois, quelqu'un qui fait un peu d'honneur de leçon en permanence.
Je vois, et c'est pas sympa de parler de Charline comme ça.
Mais non, je parlais de Guillaume. Ah. Il nous dit toujours ce qu'il faut faire. Moi, l'autre jour, il m'a dit, va te rhabiller.
Ah, ouais, ça, c'est pas cool, ça, ouais.
Ouais, c'est pour ça, moi, je propose qu'on mette un petit chien à sa place. Il serait plus docile.
Ouais, mais j'y pensais, c'est une bonne idée, Constance, un chien ou une chatte.
Tu dis ça parce que j'ai pas de culotte?
Mais non, mais arrête, je parlais de l'animal.
Bonjour la France Inter, bienvenue dans le premier épisode des Vacances de l'Humour. Aujourd'hui, les croisières par Jupiter embarquent deux invités pour une traversée de l'actualité. Nora Hamzaoui sera sur le pont pour deviser de l'égalité homme-femme sous la couette. Car la répartition souvent inégale des tâches ménagères
mais ne me regardez pas comme
s'applique
ça.
Aussi à la vie sexuelle. Il suffit de voir l'argent dépensé par les femmes pour érotiser leur corps et se rendre désirable aux yeux du mâle. On évoquera ensuite la couleur de nos vêtements qui influence notre morale, les fringues de couleur vive et gay, notre quotidien. Ensuite, le linguiste Bernard Circhini montera à bord afin de plaider pour une langue française vivante et ouverte car il a publié « La ministre est enceinte », « La grande querelle de la féminisation des noms ». Et d'ailleurs, il sera question de la langue aseptisée des politiques. Et puis, comment redonner le goût de la dictée aux Français? Eh bien, en pratiquant la dictée érotique dans le bar. Alex Vizorek,
oui,
qui est là aujourd'hui?
Eh bien, écoutez, le programme me va très bien. Alors, je vous offre une belle équipe en échange. Constance viendra nous parler de la journée internationale de la baleine. Guillaume Meurice, on l'a envoyé à la manifestation des foulards rouges. C'est pas piquer des verres, comme disait ma maman. Et enfin, Juliette Arnaud parlera du livre de Bernard Circhilini. Ça parlera linguistique. On terminera comme toute cette semaine par une chanson de Frédéric Fromet. Et là, c'est du featuring Maître Gims, sapé comme Jack Lang.
On démarre. C'est le bateau qui démarre.
Oui,
c'est
que très bien le bateau.
C'est bien frais,
très
hein. Bien c'était bateau. Manuel.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Nora Hamzaoui, nous, il y a Alex Vizorek qui est allé voir votre spectacle,
oui,
en tout cas.
Oui, c'est le deuxième
bienvenue,
spectacle.
Bienvenue, Nora Hamzaoui. Nos auditeurs vous connaissent bien. Vous avez démarré chez Frédéric Lopez sur cette antenne, et puis notamment chez Nagui. Vous avez un nouveau spectacle au Théâtre de la République. Alex Vizorek, donc, vous êtes allé.
Bah, moi, je
vous
laisse Nora Hamzaoui. Tout au début, elle m'a engueulé. Nora, elle m'a dit, c'est trop tôt, faut pas dire maintenant. Voilà. Oui. C'est trop tard, j'avais pris ma place. Et c'était super, évidemment. Moi, j'avais envie de vous voir justement ce que c'était que le deuxième spectacle, parce qu'il y a une espèce d'angoisse chez tous les humoristes. Il a commencé par moi-même, donc. Et vous en
Alex
parlez très vite.
Un spectacle depuis 12 ans.
C'est la première chose que vous dites. Ben c'est-à-dire que vous étiez angoissé par l'idée de ce deuxième spectacle.
Mais parce qu'en fait, après, c'est un peu un égo trip d'être angoissé par le deuxième spectacle, parce qu'il y a un peu aussi un truc d'égocentrisme, parce qu'en gros, moi, mon truc, c'était, ah, imagine, les gens sont déçus du deuxième spectacle, mais déjà, les gens s'en foutent. Et puis, c'est pas comme si les gens s'agissaient, c'est pas comme si non plus tout le monde avait découvert le premier spectacle, mais c'est
il
juste...
Il a cartonné.
Le premier spectacle.
Vous étiez inconnu avant celui-là, et puis...
Ah, oui, c'était chouette, ça a
succès.
Bien marché tout, mais après, je pense qu'il y avait aussi des trucs à l'angoisse du deuxième spectacle, parce qu'on se dit, je recommence à ne pas connaître la musique de mon texte, je recommence à ne pas savoir à quel moment ça va rire ou pas, et je recommence, enfin, tout est complètement... Mais en même temps, il y a l'excitation de... Je recommence à dire des trucs que je pense vraiment au moment où je les écris. Là où le premier, entre le moment où j'ai écrit le texte à 28 ans et à la fin quand je le jouais à 33 ans, il y avait des trucs que je pensais peut-être moins ou qui m'amusaient moins Voilà,
et donc les thématiques que vous avez découvertes, évidemment il y a la maternité, vous en parlez, ça vous l'aviez pas dans le premier spectacle.
J'en parlais pas,
et tout ce qui découle de ça.
Oui, bah en gros la maternité plus la grossesse, je pense, parce que j'arrive pas trop à parler de trucs qui sont hyper immédiats ou qui appartiennent trop à ma vie, parce que d'un coup j'ai aucun recul et aucun second degré dessus et tout. Mais la grossesse, je pense qu'il y a toujours un fil qui était déjà un peu dans le premier spectacle, qui est une sorte de façon de se confronter à ce qu'on pense être une norme, à ce qu'on nous avait dit, à ce que ce serait à la meilleure version de soi-même, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on serait supposé faire, qu'est-ce qu'on attendait de ça, et voilà, et comment être la meilleure version de soi-même en femme enceinte, en adulte, en mère. Et il y a aussi, moi, pour moi, ce truc-là est tiré vers le couple et l'usure du couple. C'est que je pense que dans le premier spectacle, d'ailleurs, dans le premier spectacle, elle était déjà maquée, mais plein de gens disaient cette parisienne célibataire et tout ça, mais elle n'avait pas du tout célibataire. Et
Vous vous êtes posé des questions sur le fait que vous dégagiez ça?
Bah ouais, j'ai posé la question à un journaliste, je dis, mais pourquoi vous dites qu'elle est célibataire? Il m'a dit, bah, parce qu'elle lose. Et j'étais là, elle lose, donc c'est-à-dire qu'en gros, elle serait avec un mec, elle serait. Elle serait nouineuse, enfin, c'est assez insensé, parce qu'on peut aussi loser en étant avec un mec.
C'est un peu votre personnage, et c'est ça qui le rend super sympathique, parce que moi, les humoristes qui parlent d'accouchement et de grossesse, il y en a eu plein. Je donnerai pas les noms de celles que j'ai trouvées drôles et celles où je me suis dit, mais en fait, elles ne me parlent pas du tout à moi. Ici, cette lose-là, vous la transposez justement au couple, et c'est donc plus facile pour l'homme de se projeter.
Parce que, merci.
Non, mais c'est vraiment.
Je pense que comme, en fait, quand j'ai bossé mon spectacle, je me mets toujours, en fait, l'idée, c'était de construire un personnage qui est donc en effet une partie de moi, mais en étiré. Et de toute façon, pour le rendre comique, il faut qu'il soit toujours en situation de difficulté. Donc, du coup, ça passe par son rapport au monde et son rapport aux autres. Et donc, du coup, ça implique forcément, son mec ou son mari ou les gens qui la côtoient autour d'elle et tout. Je me souviens plus du début de la question ni même du début de la phrase en fait.
Mais il y a même la vie sexuelle qui en découle, on en parlera dans le sujet 2, mais c'est vraiment quelque chose qui en général n'est pas ouvert, la boîte de Pandore de la sexualité après.
Ça m'amuse beaucoup d'en parler en ces termes parce qu'en fait je m'aperçois que je parle de l'usure et aussi d'une sorte de pression quand même qu'il y a sur le plaisir et même une certaine forme de régularité comme un sport ou quelque chose qui ferait partie de notre hygiène de vie. Et je m'aperçois que je reçois énormément de messages, mais certains même un peu étranges, de gens qui me disent oh, on a baisé ça dans ton spectacle, ça fait hyper longtemps.
Et
j'ai eu beaucoup plus étrange que ça.
Pendant le spectacle.
Il y a un truc qui m'a inquiété pour votre venue ici chez nous, c'est qu'il y a une partie du spectacle, vous parlez des dîners parisiens, et vous dites je n'ai d'avis sur rien. Et ça m'angoisse. Alors je me suis dit, comment on va faire pendant une heure?
Mais c'est vrai que j'ai un avis sur rien, c'est que je trouve toujours l'avis des autres beaucoup plus intelligent. Et j'ai réalisé il y a peu de temps que j'étais hyper influençable. Et que parfois, je m'attribuais l'avis de quelqu'un et que je le ressortais à un autre dîner en semblant que c'était moi. Et si quelqu'un me dit, il n'est pas d'accord, je suis capable de reprendre l'avis de quelqu'un d'autre. Enfin,
bon, on fera l'expérience, peut-être on donnera chacun notre avis autour de cette table et vous choisirez.
L'avis qu'elle a eu hier soir à table. Draw for your bell bottom black heel and frock. Boom shakalak rude boy. You don't tell him no sir.
Right.
Alex.
Charline.
Vous avez reconnu Apache Indian, bien sûr.
Apache Indian.
C'était Boom Chocolac sur France Inter.
Nora Mzaoui est avec nous pour les grosses têtes. Et on va aborder ce premier sujet avec vous. Il existe un point commun entre les tâches ménagères et la sexualité. C'est la charge mentale. Toutes ces choses que la femme est persuadée de devoir faire par le conditionnement de la domination masculine. La contraception, l'épilation, la lingerie, bref, l'érotisation du corps pour le lendemain risquer de devoir aller chercher la pilule de ce fameux lendemain, le test de grossesse et dans le pire scénario, l'avortement. Et qui nous transmet cette charge mentale, je vous le demande ?
Qu'est-ce que tu fais là ?
Faut que je te parle.
Écoute,
on n'a pas eu le temps de parler, mais il faut absolument que tu saches qu'en couchant avec un garçon sans précaution, tu peux attraper des maladies. Et même des maladies
mais
très
mais
graves.
Ça va pas.
Écoute-moi, ma chérie, évidemment, il y a le sida, tout le monde le sait, mais il y a plein d'autres choses. Il y a aussi les herpès génitaux, les blénorragies, les mycoses. C'est très emmerdant, les mycoses.
Mais t'es complètement malade, maman.
Mais écoute-moi, la pilule n'est pas une précaution suffisante. Tu m'entends? Il faut absolument que tu mettes des préservatifs aussi. Alors, je ne savais pas, je t'ai pris toutes les tailles, hein, au cas où. Tiens, et alors ici, j'ai une petite notice. Bon, c'est écrit en tout petit, mais le dessin est très bien fait. Tu verras, il y a un petit chemin.
Oh, c'est dégueulasse!
Si tu pouvais attendre un petit peu, j'aurais le temps de te montrer la maison avec une banane ou une courgette.
Isabelle Gélinas dans Fais pas ci, fais pas ça, la série de France 2. C'est un article que nous avons trouvé sur Slate. Désir, plaisir, contraception, MST, c'est la charge sexuelle sur Slate. Alors, c'est vrai que alors lingerie, parfum, épilation, s'assurer de la contraception, de la protection, voilà pour la charge mentale de la femme. Face à cela, quelle serait la charge mentale de l'homme? Je vous la pose à tous, cette question.
Bander, trouver un clitoris.
Voilà. Trouver un quoi?
Donc, on serait d'accord qu'il y a une grosse charge mentale chez la femme par rapport à l'homme.
Vous avez remarqué comment on ferme bien notre gueule?
Non, mais après, c'est aussi, en disant ça, on pousse aussi certains stéréotypes selon lesquels la femme devrait s'intéresser à sa lingerie plus qu'un homme devrait s'intéresser, par exemple, aux sous-vêtements qu'il porte.
Vous n'avez jamais vu les miens.
C'est bien pour ça que je prends des pincettes avant de dire ça. Ouais. Je sais que je... Mais, enfin, je sais pas. Autant, moi, la charge mentale, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui m'amuse beaucoup. Et d'ailleurs, dont je parle dans le spectacle aussi, à un moment dans le conflit avec, parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir. Et pour moi, la charge mentale, c'est plus que.
On n'a pas fini la phrase.
Non, jamais. Aucune. Vous n'êtes pas venu voir le spectacle, il n'y a aucune phrase qui se termine. Non, parce que j'ai jamais de conclusion. C'est mon astuce. Je n'ai aucune phrase comme ça. Au moins, les gens disent, ah merde, j'ai pas compris ce qu'elle a dit, plutôt que se dire, c'est complètement con. En fait, ça n'avait aucune tête. Non, en fait, j'ai pas compris.
Une carrière.
Voilà. J'ai dit ni queue, ni tête. Oui, c'est ça.
On disait que la charge mentale, c'était important dans votre spectacle.
Oui, c'est très important. Et c'est important. Et c'est un vrai sujet et tout. Et je pense que c'est une question plus d'anticipation, d'ailleurs. Je pense que.
C'est-à-dire.
Bah, je crois que, par exemple, en tant que femme, j'ai le sentiment que le vrai problème de la charge mentale, c'est que j'anticipe beaucoup et que je me projette beaucoup. Là où j'ai l'impression que mon partenaire vit les choses beaucoup plus dans l'instant et qu'il y a presque quelque chose de névrotique à devoir tout prévoir. Et d'ailleurs, souvent, les hommes peuvent jouer de cet argument-là à dire « mais je l'aurais fait si tu... » Sauf qu'on ne donne pas la chance de « est-ce qu'il l'aurait fait ou pas ?» C'est qu'on veut que ce soit fait en temps et en heure.
Peu l'idée de la charge mentale liée à la sexualité, c'est-à-dire que peut-être que la femme se prépare davantage et où chez l'homme, il se prépare moins et c'est plus impulsif peut-être. Non.
Mais vous j'aime pas penser ça, je sais pas. Ouais. Peut-être.
Alors, après, évidemment, on parle de généralité. Hein, on est dans un article qui nous explique que.
Ça prend du temps d'allumer les bougies, de mettre les pétales de rose sur le lit. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire.
Non, mais.
si je peux parler personnellement.
Mais je vous en prie, on attend votre témoignage.
Non, mais pour la contraception, c'est sûr qu'on a plus de choses à gérer.
Ouais. Nora Hamzaoui avec nous. À vos côtés, il y a Constance.
Qu'est-ce que c'est?
C'est Constance?
Ouais. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la baleine.
Oula!
Mais oui.
D'accord, que ce soit une sextape.
Non. C'est une baleine.
Oui, pardon.
Savez-vous ce que dit une baleine qu'on chatouille? Elle dit c'est assez, j'ai le dauphin. Bon, mais puisque c'est comme ça, je me cache à l'eau. Comment? Oui, j'ai tapé Black Baleine sur Google, alors. Qui êtes-vous pour me chucher? Bon, maintenant qu'on s'est bien fendu la poire, je rentre dans le vif du sujet. Depuis 1982, la pêche à la baleine commerciale est interdite, mais malheureusement, le combat des protecteurs de baleines est loin d'être terminé parce que l'homme ne laisse jamais les animaux. Mais elle va encore nous gonfler, cette bestiole, celle-là! Elle nous fait chier, la Brigitte Bardot de Picardie, là! Oh là là! Et gna gna gna, arrêtez de détruire la planète et la biodiversité,
Et gna gna gna, les animaux sont des êtres sensibles comme les femmes. Et gna gna gna, arrêtez de nous violer. Et gna gna gna, on va être payé pareil. Et gna gna gna, on va pouvoir manger de la raclette, avoir des petits culs. Et dis donc, ouais.
Pardon, mais qui êtes-vous? Je suis le mâle de base qui vit dans ta tête, poupée. Alors déjà, vous ne m'appelez pas poupée. Et ensuite, je vous demande d'aller vous coucher parce que je ne vous laisserai pas prendre le pouvoir, vous, les idées parasites. Je suis ici pour parler baleine. Excusez-moi. Oh putain, c'est quoi ça encore? Je me permets de vous interrompre quelques secondes pour semer la panique dans votre tête. Je suis l'angoisse. Allez-y, mais vite fait parce que j'ai une chronique à faire. Ok, je me dépêche, comme Michel. Michel Delpech. Ok. Bon, c'est parti.
On va tous crever à cause que l'Antarctique, ils font vachement plus vite que prévu. On a tous du glyphosate dans notre pipi. Et ce sera la guerre bientôt et on va se foutre sur la gueule à coups de bombes nucléaires. Et les sèche-cheveux dans les hôtels, ils sont pas puissants, c'est nul.
Vous avez fini? Oui, merci. Ah non, pardon, il me reste encore un petit peu.
Comment qu'on va faire quand Cyril Hanouna sera devenu président de la République?
Voilà, j'ai fini. À bientôt. Voilà, à bientôt. Bon, il reste du monde qui veut s'exprimer ou je peux faire mon travail?
Oui, j'ai vu que tout le monde avait l'air de prendre la parole. Alors je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas continuer à me taire. Vous êtes qui, vous, je sais. Vous êtes le poète incompris qui sommeille en moi, c'est ça? Absolument. Je ne peux pas nier que c'est la vérité vraie. Moi, je voulais protester contre le mal que l'on fait à l'art en refusant de reconnaître l'art sous toutes ses formes. Ainsi, pour croiser mon intervention avec le sujet de votre chronique, je suis outrée que le chant de la baleine ne figure jamais dans les émissions télévisées telles que La Nouvelle Star ou Incroyable Talent. Et je n'ai pas peur de taxer les sociétés actuelles de baleinophobes.
Ok, merci pour ce coup de gueule. Donc, comme vous avez pu le constater, comme une baleine, j'ai nagé pour organiser mes pensées, parce qu'il y a un petit peu trop de monde dans ma tête. Mais vu que ce sera bientôt la fin du monde, vu qu'on ne fait rien contre le réchauffement climatique, et si je reste la seule survivante sur Terre, je me dis qu'au moins j'aurai de la compagnie. Bisous.
Nora Hamzaoui est avec nous. Et restons dans le costume, justement. La couleur de nos vêtements peut influencer nos émotions. Si on porte des vêtements colorés, on reçoit des remarques positives de la part de notre entourage, ce qui embellit la journée. Ne regardez pas comme ça, Nora. Ne dit-on pas une couleur pétante dans l'idée qu'elle va exploser au regard? Tandis que l'inverse est vrai aussi pour les couleurs sombres.
Aujourd'hui, j'ai décidé de m'auto-relooker et de changer complètement de vie en adoptant un style gothique.
Je me rends dans un salon de beauté spécialisé dans le thème de la mort. Une demi-heure plus tard, mon relooking est terminé et je peux enfin profiter de ma nouvelle life. Avec mon teint cadavérique, je rends hommage aux millions de Français qui sont tristes et déprimés. Je me sens maintenant plus sûr de moi et je me surprends à adopter de nouvelles attitudes. Voler un scooter en plein jour ne me fait pas peur. Mon nouveau look me crédibilise et renforce mon sex appeal. Je suis à la fois irrésistible et indomptable.
C'est Chris Esquer dans sa série de sketchs Télé Oléron. Alors c'est un article, une fois de plus, qu'on a trouvé dans Slate, qui s'intitule « Le potentiel émotionnel de la couleur de vos fringues ». Nora Hamzaoui, vous vous habillez plutôt sombre, plutôt coloré? Les deux, comment ça se passe?
Je suis contente qu'on aborde enfin une question. Moi, j'ai des phases, donc j'ai. j'ai une grande phase qui a duré à peu près, je dirais, 6-7 ans de gris. Voilà.
Vous n'en êtes pas sorti?
J'en suis pas complètement sorti, mais
gris, ouais.
Non, si. En fait, pour tout vous dire, j'en suis sortie parce que je suis passée au jaune, mais là, je.
Ouais.
J'en ai assez. Ah. Alors, j'ai repris du gris.
Justement, vérifions l'article. Quand vous êtes passé au jaune, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans votre entourage, dans votre vie?
Je m'en fous. Les gens ont commencé à me regarder différemment, à me respecter. Non, rien du tout. On m'a dit ça. Non, mais après, c'est vrai que si ça suscite juste des commentaires, et moi, je ne supporte pas les commentaires, et je me suis souvenu de pourquoi je m'étais tout le temps maigri. Ah, t'as mis du jaune! Bah ouais.
C'est plutôt l'inverse alors.
Voilà.
Oui.
Ça dénote une prise de risque, le jaune. Donc peut-être ça dit quelque chose sur
non,
votre nouvelle vie.
Non, c'est vraiment une obsession. Non, vraiment.
Vous prenez plus de risques.
Je me suis aperçue que j'avais rejeté. Non, mais vraiment, on va vraiment parler de ça.
Ouais,
parce que je me suis aperçue que j'avais rejeté le jaune pour des raisons totalement injustes. Voilà.
J'ai réhabilité le jaune, donc.
C'est bizarre.
Oui.
Il a fait ça avec des aliments aussi.
Il y a bien une psychanalyste qui s'est penchée sur le sujet. Ça fait un article dans Slate. Il y en a eu un même dans Madame Figaro.
Alors, ah oui, quand même, c'est sérieux.
Il
n'y
a pas de raison de ne pas aborder le sujet.
Quoi.
Pas
c'est sûr.
Période grise, période jaune, on s'en souviendra. C'est dans Rams, ah oui. Passons au sketch.
Mais oui, vous connaissez bien l'émission. Vous savez qu'il y a un sketch de fin d'émission qu'on propose évidemment à l'invité. Alors c'est vrai qu'on s'est dit, Nora, quand elle traite souvent de la vie urbaine, d'une femme parisienne, parfois un peu tendue, dans son époque. Alors on s'est dit, si on en faisait une maman ours polaire en couple avec un papa ours polaire, vous et Guillaume, on se rend au Pôle Nord. Charline et moi, on est vos enfants.
Les enfants, je suis rentré.
Papa !
Oh mais c'est à cette heure-là que tu rentres, t'aurais pu m'envoyer un petit texto au moins.
Oh désolé, j'étais à la pêche et j'ai fait tomber mon téléphone dans l'eau.
Ouais bah je me suis super inquiétée. J'étais à deux doigts de te chercher ton nom sur Google Actu pour vérifier si t'étais pas arrivé un truc.
Pardon chérie, ça va.
J'imagine que tu vas pas ramener mon gratia.
Bah non, y a pas de kiosque sur la banquise.
Et voilà, comme d'habitude. Non mais comment je vais faire sans mon horoscope?
Bah ouais, mais en même temps, au Pôle Nord, ils n'arrivent pas non plus énormément de choses.
Hein. Un amour, c'est sûr, mais professionnellement.
Bah la dernière fois qu'on a fait quelque chose, c'était il y a 40 ans, quand on a posé pour Coca-Cola.
Papa, maman, on mange quoi?
T'as ramené quelque chose, j'espère?
Bah ouais, j'ai ramené du saumon.
Non mais c'est pas possible, mais je suis végane.
Encore? Oh.
Et tu vas encore préparer avec ta sauce bourrée de gluten? Là, non, hors de question, je viens de passer aux enfants.
Toc, toc, toc.
Oui, ben entrez.
Bonjour, c'est Ségolène Royal.
Super, on ne fait plus que ça.
Je passais dans le coin et je voulais vérifier si vous n'étiez pas en voie d'extinction.
D'extinction? Non mais, on est de plus en plus de beaux boulets, on est de plus en plus les beaux bourses.
Un beau bourse?
Ah, c'est un ours, mais bobo. On habite le 6e arrondissement de l'Arctique.
Oui, bon, on n'est pas encore en voie d'extinction. On se reproduit, on a de beaux enfants, ça va.
Non, mais ça va, Guillaume. Je ne vais pas lui raconter notre vie intime tant que t'es. C'est quoi cette mode à tout déballer à des inconnus? C'est comme les gens qui répondent non, ça va pas. Quoi, ça va pas? Quand tu leur demandes, ça va bien. C'est juste une formule de politesse. Calmez-vous, les gars. On s'en fout que ça aille ou que ça aille pas.
Bon, mais je crois que je vais y aller. Dites-moi, vous ne connaissez pas des pingouins dans le coin?
Si, là-bas, je les connais, on va au yoga ensemble.
Maman, maman, Léon Gustave a volé mon morceau de glace.
Mais c'est pas vrai, c'est Capucine Cerise qui a volé mon morceau de glace.
Non, il dit n'importe quoi.
Non mais arrêtez de vous battre pour de la glace. On vit dans un igloo, il y en a partout. De toute façon, ce sera tofu pour tout le monde.
Mais maman, mais comment on fait les bébés?
C'est vrai que les filles, elles laissent dans les roses.
Maman, je suis pas chez Quotidien, je vais pas répondre aux questions des enfants.
Dis-moi chérie, ça va? Tu serais pas un petit peu en burn-out là?
Quoi, moi en burn-out? Parce que j'ai une vie pourrie, c'est ça? On vit dans un pays dans lequel il fait moins 5 degrés, en plus les glaciers sont en train de fondre, il n'y a pas une épicerie de quartier, ni un bar, impossible de picoler le soir. Enfin, je dis le soir, ici la nuit commence fin septembre et se termine début mars. Pas de Wi-Fi, pas de Uber, pas de Deliveroo, pas de rooftop. Comment veux-tu que je sois pas en burn-out?
Faisons escale auprès de Guillaume Meurice, Alex Vizorek. Où
est-ce qu'il est allé? Il est allé prendre l'air. Et il est allé prendre l'air avec les foulards rouges. On n'est pas sûr qu'il soit d'accord avec eux, mais il les a laissés parler.
Eh ben, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une bonne vieille manif. Tiens. Alors, je suis allé hier avec les foulards rouges, les ravacholes de la Startup Nation. Putain, c'était dingue. Une foule de macronistes radicalisés, chauffés à blanc. Il y a des gens venus en trottinette électrique de toute la France, tous réunis dans la colère, contre les riches. C'était très, très impressionnant, même si, bien sûr, on déplore plusieurs blessés. Notamment François Kevin, qui s'est brûlé la lèvre supérieure avec son frappuccino en sortant du Starbucks. Des images insoutenables hein, qui nous rappellent les heures les plus sombres de la vie en open space. C'était foufou, donc à mes risques et périls, je savais que je suis un petit peu aussi reporter de guerre à mes heures perdues. J'ai interrogé cette foule pas haineuse avec leur t-shirt « Stop aux violences ».
C'est une marche contre la violence et pour la République.
Ouais.
C'est pour là que nous sommes ici.
C'est contre le chaos.
Si vous êtes contre les violences, vous êtes contre la violence policière aussi?
Non.
Ah, merde. C'est mal barré là. J'ai l'impression que le prix Martin Luther King, ça va pas être encore pour cette année, pour cette brave dame. Alors, pour juger de la violence, il faut d'abord juger c'est qui a commencé.
S'il y a eu violence policière, c'est qu'il y a eu au départ provocation.
Si vous êtes contre la violence, vous êtes contre la violence de tous les côtés normalement. Bah,
moi je pense que les forces de l'ordre font un boulot monumental.
Mais est-ce que ça justifie voilà, que des gens perdent des yeux avec des tirs de flashball?
Bah, chacun, quand on joue, on gagne ou on perd.
Ouais. Vous n'êtes pas tant contre la violence que ça alors?
Dans ce cas-là, non.
Non, voilà, d'accord, pas du tout, en fait, pas du tout, du tout. Hein. C'est la fameuse théorie du philosophe bouddhiste Alexandre Benalla, hein, bien connu des amateurs de zen attitude et de méditation, hein, tel Bouddha ou Karis, namasté. Alors là, on était dans le côté oui aux violences policières, passons au côté non, mais alors du côté déni.
Pour moi, il n'y a pas de violence policière, ce sont des gens qui sont chargés de rétablir l'ordre. Le mot violence est inadapté en ce qui concerne la défense.
Par exemple, là, si vous charge en fin de manif et que vous perdez un œil, est-ce que vous allez changer d'avis?
Alors, si, qui me chargerait en fin de manif?
La police.
La police n'a aucune raison de me charger. Je ne veux pas balancer de pavé sur la police, moi.
Mais ça arrive jamais que la police charge sans raison apparente.
Non, pour moi, non.
Vous faites beaucoup de manifestations?
Sans raison.
Jamais.
Jamais de manifestations.
Mais par contre, je les regarde à la télé et je vois ce qui se passe.
Ah oui, oui, oui. Bah, c'est vrai qu'on est mieux devant la téloche. Hein. C'est vrai qu'on voit mieux. Il y a des ralentis. C'est un peu comme le sport. Hein. Faut reconnaître que les CRS ont un meilleur revers, d'ailleurs, que les tennismans français. Et puis, il y a Christophe Barbier ou Pascal Praud aux commentaires. Enfin, on piche bien tout. C'est top. Josiane, ramène les bières ce soir. C'est gilet jaune. Alors, il y a aussi la thèse dite. Les policiers font pas exprès.
C'était forcément un accident. Ça m'étonnerait qu'un policier ait délibérément entendu taper l'œil d'un manifestant, même à gilet jaune.
Bah, ça pose un problème, ça veut dire qu'ils sont incompétents, non ?
Bah, c'est pas une histoire d'incompétence, mais vous savez.
Bah, s'ils savent pas viser avec une arme.
Ici, il est possible qu'un flic tire, que ce soit à un mètre en dessous ou à un mètre au-dessus.
On n'est pas à deux mètres près non plus. On va pas commencer à chipoter. D'ailleurs, l'adjudant chef Gilbert Montagnier, qui est chargé de leur formation, le dit très très bien. Vous emmerdez pas à viser. De toute façon, il bouge tout le temps. C'est hyper chiant. Ça sert à rien. Et puis, on va pas non plus en faire des caisses. Hein.
Bah, écoutez, je sais pas, mais depuis 11 semaines, il n'y a pas eu tellement de blessés.
Ah, vous trouvez?
Ah, bah non. C'est-à-dire que la violence policière, a priori, n'est pas une violence intentionnelle, ni délibérée.
Mais ça veut dire quand ils tirent avec le flashball, c'est pas intentionnel de tirer avec le flashball?
Ah bah non, j'espère pas, parce que à ce moment-là, ça s'appelle des criminels.
Ah bah oui, non, là je suis d'accord, ils doivent pas savoir bien ce qu'ils font. D'ailleurs, on dit plus flashball, on dit lanceur de balles de défense. Donc il y a un côté cirque du soleil quasiment. C'est des enfants, c'est des enfants de la balle, hein. C'est un petit peu comme vous. Donc pardonnez-les, ils savent pas ce qu'ils font. Et je rappelle que la police est là pour nous défendre face à la barbarie jaune.
On a tellement subi le diktat des gilets jaunes avec leur blocage de rond-point et... C'est vraiment une ambiance de dictature et de terrorisme.
Ah ben à ce point-là ?
Bah écoutez, je crois que les terroristes, ils font un peu ça. Hein. Ils barrent les routes avec des rondins. Ils sont pas agréables, ils sont pas aimables.
C'est vrai, on a tous en tête les images des terroristes pas très sympas de Charlie Hebdo ou de l'hypercacher. Hein, les attentats dits aux rondins de bois. Le World Trade Center, c'était de la palette de chantier d'ailleurs, je crois. Et puis c'est vrai qu'au Yémen, je crois qu'ils regardent la télé en regardant la France, en se félicitant de pas y être. Hein, quand on voit ces images terribles de gens qui font des chenilles sur des ronds-points, ça fait froid dans le dos. Et comme tout bon terroriste, que cherchent les gilets jaunes?
Ils essayent d'avoir des martyrs, à mon avis.
Franchement, ah, vous pensez qu'ils font exprès de se mettre?
Mais bien sûr, ils se mettent aux avant. Ils envoient même des vieilles femmes exprès.
C'est-à-dire, ils jettent leur œil devant les.
Mais c'est pas ça.
Les balles de flashball.
Mais non, tout ça. Simplement, ils aiment avoir des martyrs.
Eh oui, Passion Martyr, hein, c'est la revue préférée des Gilets jaunes. Tout le monde sait ça. C'est hyper valorisant, de toute façon, d'être borgne dans la société. C'est évident, ça facilite la vie. Comme dirait Castaner, ça crève les yeux.
Avez-vous mesuré le temps? Avez-vous mesuré le vent? Avez-vous mesuré la nuit?
Alex.
Charline, dites-moi.
Vous avez reconnu Émilie Loiseau.
Ah bah oui, ça.
And the Blind Seats. Viens avec moi, mon vieux pays, sur France Inter. On poursuit avec Bernard Circhilini, le linguiste.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Bienvenue, monsieur le professeur.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Avec plaisir, professeur de linguistique française à Paris 7. Vous présentez l'émission quotidienne Merci professeur sur TV5 Monde depuis quelques années. Vous êtes membre de l'Oulipo, qui n'est pas un mouvement littéraire, mais qui en est un. Se définit souvent par la négative, l'Oulipo, non ? Par tout ce qu'il n'est pas ?
C'est aussi l'école littéraire qui a duré le plus longtemps. Nous regardons de très haut les romantiques, les symboliques, etc. 50 ans.
Et vous publiez « La ministre est enceinte » ou « La grande querelle de la féminisation des noms » paru au Seuil. Bernard Circhilini, au Moyen-Âge, l'auteur et l'écrivain avaient un féminin et... C'est vrai que finalement, on dit acteur, il y a actrice. Alors pourquoi auteur n'a pas autrice ?
Auteur avait autrice.
Oui. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé au XVIIe siècle ?
Il s'est passé le grand renfermement des femmes. C'est-à-dire qu'on a exclu les femmes d'abord des professions littéraires. Regardez les précieuses qu'on appelait ridicules, qui ne l'étaient pas, les femmes savantes. Et ensuite de toutes les autres professions. Jusqu'au XVIIe siècle, on confie des ambassades à des femmes qui sont ambassadrices.
Pourquoi on les a réintégrées après ? Moi, c'est ça que je ne...
Parce qu'elles ont conquis de haute lutte, et elles ont conquis un terme. Et donc, au XVIIIe et XIXe siècle, l'ambassadrice, ce n'est que l'épouse de l'ambassadeur, la présidente que séduit Valmont dans les Ondes dangereuses, l'épouse du président. Et c'est un féminin conjugal. Jusqu'au jour où, enfin, elles ont pu être nommées ambassadrices, rectrices, et elles ont dû conquérir ce féminin. Mais les puristes qui étaient restés à cette idée que l'ambassadrice n'est qu'une épouse, se sont battus becs et ongles pour garder cet usage et imposer un masculin, puisque il n'y avait que des hommes dans les ambassades, dans les rectorats, dans les préfectures. On appelait tout le monde préfet. Les premières femmes se sont appelées Madame le préfet, ce qui est une contradiction grammaticale.
Résultat, la langue est corsetée en France, mais en Suisse, en Belgique, au Québec, ailleurs, elle vit beaucoup plus, elle évolue, les mots se féminisent. Pourquoi est-ce que la France a laissé comme ça la langue française dans un corset, dans un purisme ? Est-ce que l'Académie française y est pour quelque chose ?
Sans doute. Mon livre résulte d'une stupéfaction. Comment a-t-on pu, pendant 30 ans en France, freiner un changement linguistique naturel, historique, juste socialement, qui s'est développé au Québec, puis en Belgique, en Suisse, etc. Je pense que ça tient au fait que l'Académie française a eu du mal à repenser ses missions au XXe et XXIe siècle. En 1694, elle pouvait donner des règles à la partie de la France qui parlait français, mais de nos jours, 275 millions de locuteurs qui se sentent libres et possesseurs de leur langue, on peut pas empêcher des femmes québécoises de retrouver ce beau mot d'écrivaine et d'autrice. D'où un blocage de l'Académie qui a fini, je crois, d'après ce que je sais, qui dans quelques jours va reconnaître que la féminisation est maintenant dans l'usage.
Cette féminisation, on va retracer l'histoire aussi donc dans votre ouvrage, La ministre est enceinte. Et votre ouvrage, il s'ouvre sur un épisode de la cohabitation Chirac-Jospin, où une secrétaire d'État lève timidement le doigt pour dire « dites donc, est-ce qu'on féminiserait pas dans le fond ?» Vous pouvez raconter cet épisode qui finalement, vous ouvrez le livre sur une volonté politique, sur une question politique qui va avoir des conséquences, parce qu'on est au Conseil des ministres en haut de la pyramide, et si on féminise les noms de directeurs, directrices, etc., c'est dans tout le pays que ça peut se répandre, donc il y a une volonté politique là.
Oui, en effet, j'ai raconté cela pour bien montrer qu'en France, tout est politique et au plus haut niveau. Au Québec, en Belgique, les femmes ont décidé de féminiser leur profession, toutes. Cela s'est joué en France au Conseil des ministres, c'est-à-dire qu'on allait nommer 4 femmes directeurs de ministres centrales. Tout se passait de façon tirée au cordeau, parce qu'on est en époque de cohabitation. Et puis, une ministre, a levé le doigt et a dit « Mais quand va-t-on cesser de nommer des femmes directeurs de ministères ?» Et Jacques Chirac, bienveillant et au fond très républicain, a répondu « Mais c'est une bonne chose, en effet. Qu'en pensez-vous, monsieur le Premier ministre ?» Et pour une fois, Jospin et Chirac étaient d'accord et ont mis en route la féminisation, mais au plus haut niveau, ambassadrice, rectrice, préfète, etc. Je ne peux pas dire le nom de cette ministre, car il y a un huis clos que je dois respecter, mais oh, je dirais son prénom, Ségolène.
Bernard Cerchilini, je dois dire, votre ouvrage, Juliette va nous en parler tout à l'heure, est vraiment savoureux parce qu'il est remarquablement écrit, et avec énormément d'humour, et effectivement vous dites, notre propre intrépidité n'ira pas cependant jusqu'à trahir l'identité de cette héroïque secrétaire d'État, tout au plus révélerons-nous son prénom de point, Ségolène.
Mais donc vous êtes pour qu'on dise Ségolène Royal le comme Clémentine Autaine.
Bien sûr, naturellement.
Bernard Cerchilini, aujourd'hui, donc, pour changer les choses, le politique nous dit qu'il est dans l'action, qu'il faut être dans l'action, etc. Les mots sont parfois un peu dévalorisants. On dit, quand quelqu'un parle, oui, bon, ce sont des mots, etc. Pourtant, la société, elle peut se transformer si on change le langage.
Non, elle se transforme par les luttes. Et au Québec, en 78, les femmes aussi ont conquis des places, des positions et une langue. Mais il ne faut pas oublier les mots. Nous sommes faits de langage, surtout nous, les francophones, nous adorons la langue. Donc les luttes sociales, les revendications doivent aussi passer par la langue. C'est très important de lutter pour qu'on dise Madame la ministre, Madame la préfète. Ce n'est pas neutre, ce n'est pas insignifiant.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement?
Bah, ils m'ont traité de tous les noms.
Vous en avez reconnu un ou deux?
Oh, bah c'était des péquenots, quoi. Ils étaient sales.
Enfin, s'ils ont fait qu'insulter encore...
Mais qu'est-ce qui leur prend?
Bah, ils se plaignent, comme quoi ils sont exploités.
Et c'est pas vrai?
Si. Mais c'est bizarre, parce qu'ils sont pas censés s'en rendre compte.
Un extrait de Kaamelott. On a entendu Lionel Astier et Joël Sevilla dans la série d'Alexandre Astier. Bernard Cerchilini, est-ce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui parlent le même langage que Monsieur Tout-le-Monde? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intelligence, de complexité, de subtilité au niveau du pouvoir. Est-ce que nous, Monsieur Tout-le-Monde, quand on va discuter avec eux, est-ce qu'on va se comprendre? Est-ce que le langage est le même?
Je vais être très attentif parce qu'il y a aussi un problème de langue et de communication. Il est évident que les politiques parlent tous un français aseptisé. Il suffit d'écouter les politiques d'il y a 50 ans à la radio. Oui. Des accents, des formules, des proverbes, des mots régionaux. Maintenant, ils parlent tous comme des énarques.
Vous regrettez Charles Pasqua, on en est là.
D'un certain point de vue, oui, c'est vrai. Au moins, il avait un accent.
Non, ou alors, dès qu'il parle différemment, pour le coup, ils sont
Georges Marchais.
Je pense à plus récemment à Joachim Sonneforget, qui s'exprime plutôt comme un jeune internaute et qui est mis un peu cloué au pilori pour cette raison-là.
Ça jouait aussi. Hein. Ouais. Il utilise une langue jeune qui n'est pas reconnue comme la langue du politique. Et il est vrai qu'il y a aussi dans le demande des Gilets jaunes une volonté de s'exprimer, d'être entendu. Et y aura-t-il un débat? Ça sera vraiment intéressant, de confrontation, de registre de langue. Les politiques parlent tous une langue aseptisée. Ça a commencé avec premier débat entre Jospin et Chirac. Ils parlaient la même langue. Et j'ai regretté, en effet, quelqu'un comme Georges Marchais, qui avait un langage prolétarien.
Oui, mais dès qu'on régional. A un président ou un ministre qui sort du registre politique, bon, admettons avec des vulgarités ou de la grossièreté, il est tout de suite un peu condamné. Là, je pense au casse-toi pauvre con de Sarkozy ou tout ça. Et en fait, dès qu'ils redeviennent un petit peu normaux...
Ou Jean Lassalle,
qui a un bel accent de sa région. Hein. En effet, ça, c'est exceptionnel.
On ne comprend pas ce qu'il dit. Ça, c'est un autre problème.
Lui non plus, mais...
Cela dit, Emmanuel Macron, c'est amusant parce qu'il y a un langage très technocratique qui semble très... tout à fait creux, on l'a encore entendu lors des vœux, ça mouline dans le vide, on comprend plus rien.
Mais pendant les vœux, il a dit « moi qui suis né en province ». Donc il a bien compris qu'il fallait se ressourcer. Mm-hmm. Donc il ne serait pas étonnant de voir apparaître quelques mots picards dans le langage du président.
Et pourtant, il enrichit le vocabulaire, puisqu'on en vient à inscrire sur des t-shirts à la boutique de l'Élysée « poudre de perlimpinpin » ou « croquignolesque ».
Croquignolesque, en effet. Chaque président a son mot. Mm-hmm. Mais globalement, c'est un langage de technocrate que l'on entend. À droite comme à gauche, au centre également. Mmh. Et peut-être que l'on aura avec ce débat peut-être une résurgence d'une langue populaire qui existe et qu'on n'entend pas.
Bernard Cerchilini, la ministre est enceinte ou la grande querelle de la féminisation des noms, paru au Seuil. Ça, c'était un bouquin aussi pour Juliette. Hein. Carrément.
C'est vrai. Alors, le sujet du jour, la longue, grande querelle de la féminisation des fonctions officielles et noms de métiers.
attardons-nous sur le mot querelle, opposition vive, échange de propos hostiles. Néanmoins, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun. Les gens n'en viennent pas à se coller des ramponneaux dans la figure sur les ponts de Paris ou de Toulon. Mais il y a opposition et ça chauffe, ou plus précisément, ça a eu chauffé. Qu'est-ce que ça y est maintenant ? On s'est sorti le cul d'errance et ça a duré 30 ans. Par où commencer ? Eh bien, comme je dis souvent à mes proches quand la conversation m'ennuie, viens, on parle de moi. C'est un peu égocentrique, certes, mais oh, je suis comédienne, moi, hein, pas Sainte-Thérèse d'Avila. D'ailleurs, comédienne, actrice, pas de problème, le féminin est passé crème depuis toujours. Non, c'est avec mon autre métier que ça se tend. Être humain qui écrit, j'ai pensé spontanément, écrivaine. Grosse erreur! Colossale boulette, bourde de proportions bibliques. La première fois que j'ai dit ça à quelqu'un, le quelqu'un, un gars, ça devait être un gars, m'a ri au nez. Alors moi j'ai cru qu'il pouffait parce que je prétendais ainsi pratiquer le même taf que Victor Hugo. Non, c'était le E en suffixe que j'avais innocemment installé, hein, vu que mon genre dans la vie c'est femme. C'était la première fois que je tiquais, ce ne fut pas la dernière. J'ai compris très vite qu'on pouvait très aisément être une factrice sans être pour autant la femme d'Olivier de Besancenot. Mais Colette, que le tout Paris avait pourtant vu danser quasiment à poil sur scène, était romancier. Comme si elle portait la barbe de Maupassant. Sérieusement ! Et ce livre, le vôtre, Bernard, raconte comment finalement, et je vous cite, l'histoire, avec un grand H, s'est déposée sur la langue. La langue qui bouge. Et vous dites, c'est un phénomène normal et mondial. La langue, elle bouge, elle évolue, exactement comme son homonyme, l'autre langue, l'organe. Vous savez, ce corps charnu, allongé, situé dans la cavité buccale, et mobile. Sauf que le français ne semble pas être une langue tout à fait comme les autres. À ce sujet, vous citez l'académicien Jean Dutour qui écrit « Le français a peut-être des lacunes, je l'imite hyper bien, virgule, encore que je ne vois pas bien lesquelles. » Sur cette base, oui, le français, on est humble. Sur cette base, on pouvait donc écrire sans sourciller la phrase suivante « Un homme sur deux est une femme. » Et à un moment donné ou à un autre, une femme de 50 ans. Ou encore, l'homme est un mammifère, mais à la différence de l'animal, l'homme est doté d'un utérus simple. Petite digression à propos d'utérus, que personne ne s'affole, je ne vais pas parler de mes règles. L'utérus était mobile pour les Grecs, et donc c'était mieux pour la femme d'être enceinte, parce que comme ça elle avait l'utérus occupé, et ainsi il était immobile. Et l'utérus, il n'allait pas foutre la zone chez les autres organes en rendant les femmes hystériques. Depuis, rassurez-vous, on a bien progressé, on sait que l'hystérie ne vient pas du bas, de la matrice, mais d'en haut, de la tronche. Ce qui nous permet de dire la phrase suivante, Yann Moix est hystérique, sans commettre de non-sens médical. Bref, des lacunes, n'en déplaise à l'académie, il y en avait. Je vous cite, il s'agit bien moins de féminiser la langue que de la démasculiniser, parce que ça n'a pas toujours été vrai. Et puis il y a eu la révolution, et on s'en réjouit, encore que, je cite Jean Dutour, elle est entraînée cette révolution, le paradoxe démocratique qu'avait soulevé Geneviève Fraisse, le progrès républicain passe par l'interdit des femmes, la société post-révolutionnaire consomme la réduction des femmes au domaine privé. Heureusement, et je vais citer notre président Macron, le français s'est au fond émancipé de la France, cette langue archipel. Et oui, il n'y a pas que les Français à causer français. Vous parodiez alors, Bernard, le plus célèbre oxymore de Anne-Louise Germaine de Staël, romancière et pas romancier. Vous savez, celle qui disait la gloire et le deuil éclatant du bonheur, et vous concluez ainsi la gloire mondiale de cette langue, le français, est le deuil éclatant du purisme. En clair, merci les Québécoises et sans flagornerie, merci les Belges.
Juliette Arnaud, on a envie de dire merci Bernard pour ce livre.
Merci Bernard.
Eh oui. La ministre est enceinte, parue au Seuil par Bernard Cerchilini, qui est notre invité aujourd'hui. On peut dire qu'on le recommande chaudement, cet ouvrage.
Ah oui,
Juliette.
Oui, parce qu'en plus, alors,
c'est très amusant.
On apprend des tas de mots. Ouais. Par exemple, polysémie. Ne me demandez pas de le définir, j'ai encore pas tout à fait compris la différence avec homonyme.
Polysémie qui a plusieurs sens.
Voilà.
Comme cuisinière. Voilà.
Oui, mais homonyme aussi.
Ah, qui a le même sens.
Ouais, voilà. C'est l'inverse.
Il y a un peu de mathématiques aussi, c'est comme dans l'Oulipo. Mais c'est autre sujet. Depuis 2 ans, tous les mois, des Parisiens se réunissent dans un bar pour faire des dictées coquines. Un incitant à améliorer son orthographe. Excusez-moi.
Vous avez tout révisé, vous avez révisé toutes les règles, les pires.
Oui, et je sais maintenant écrire Godmichet. Il ne s'écrit pas avec ET.
D'accord, c'est pas Godmichet.
Non, c'est Godmichet.
Un extrait de film? Non. le reportage de M6 consacré au sujet qu'on a trouvé suffisamment drôle pour illustrer ce sujet paru dans Le Parisien, daté de lundi. Alors, effectivement, c'est une initiative tout à fait locale avec deux experts de la langue française qui cherchent à rendre ludique l'apprentissage du français, mais qui a le mérite de poser une belle question. Ça se fait dans un bar et on fait des dictées coquines, un peu érotiques, libertines. Alors, le vocabulaire libertin, on l'utiliserait plutôt à l'oral qu'à l'écrit. Alors, c'est une bonne solution, ça.
Oui.
Elle est filoute, cette question.
Travailler. Elle a eu des bons profs, j'ai l'impression.
Eh oui.
Une histoire de langue, bien sûr.
Voilà, ça dérape.
Pour Charnus, c'est amusant, c'est-à-dire que pour inciter les gens peut-être à faire des dictées et à améliorer l'orthographe dans plein de mots qui sont utilisés tous les jours.
Comme clitoris.
On doit en passer par des mots qu'on utilise assez peu à l'écrit pour rendre les choses amusantes.
Ou on peut inverser la chose, c'est-à-dire que une double passion française pour la langue et pour la dictée. La dictée et pour la gaudriole.
Ah bah
et donc
oui.
Le tout se réunit et l'on fait des dictées coquines et ces dames écrivent des dictées coquines. J'imagine que le tout est de leur cru.
Oui,
c'est une contrepétrie,
je crois. Ouais.
Alex, il n'y arrive pas, il a le nez qui saigne tellement c'est trop dur pour lui.
Je suis en AVC. Je la note, comme ça j'ai la soirée.
Bernard.
Bon, nous aussi, on a un exercice pour vous. Alors, l'exercice du sketch de fin d'émission. On vous propose un rôle pour jouer avec nous. Et pour vous, on s'est dit Franck Ribéry, c'est bien. Parce que Franck Ribéry a mangé une entrecôte en or à Dubaï. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et donc, le journaliste de l'équipe, Guillaume Meurice, est allé en Bavière rencontrer Franck Ribéry, vous, et Waïba, sa femme, Charline, pour avoir quelques explications.
Franck Ribéry, bonjour.
Vas-y, t'es qui, bouffon?
Franck, c'est le journaliste de l'équipe.
Ah pardon, l'équipe, c'est un journaliste que j'aime bien parler.
Avec qui j'aime bien parler, on dit.
C'est pas ce que j'ai dit.
C'est qu'est-ce qu'il a dit, ouais. Te laisse pas marcher sur les crampons, mon Franck.
Bon, alors, première question que se pose la France entière.
Allez-y, je t'écoute, je suis toute vue.
Tout oui, on dit tout oui, vous êtes tout oui.
Bah oui, j'ai pas dit non.
Non, bon, alors, pourquoi cette entrecôte recouverte de feuilles d'or?
Bah j'avais faim.
Ouais, et puis aussi pour chier des paillettes.
Non, ouais, d'accord, mais franchement, non, mais des feuilles d'or.
Bah pour qu'on voie que je soutiens les gilets jaunes.
Non, pour qu'on voie.
Eh ben, il n'y avait pas de paillettes.
Bon, d'accord, je comprends mieux. L'or et le jaune, ouais, c'est drôlement bien vu, ouais, ouais.
Ouais, mais ma femme et moi, on est des gens qu'on va vite avec l'esprit.
Qui allons vite.
Voilà, exactement comme vous disiez.
Ouais, d'accord. Et pourquoi à Dubaï?
Bah, c'est un endroit où j'aime bien aller.
Évidemment. Et autre question. Alors, vous avez présenté vos vœux sur Twitter.
Moi, ça m'a ému. Hein.
Alors, pourquoi cette invitation à faire l'amour avec les mamans et les mamies?
Ah, c'est pour tous ceux-là qui disaient du mal de moi.
Oui, mais pourquoi s'en prendre à leur mère et à leur grand-mère?
Bah, pas seulement, qu'ils soient aussi dans leur sœur, leur cousine, leur petite nièce.
j'ai compris le principe.
Leur chien aussi.
Ouais, compris.
Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est pas dans les pieds qui roulent qu'on fait les meilleures soupes.
Bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019?
Des putes.
Pardon, vous vouliez dire des buts, non?
Non, des putes avec un cul.
Bon, alors, on va s'arrêter là. Ouais.
Vous saurez gré de m'adresser un facsimilé de votre article.
Hein? Au secours, mon Franck fait un AVC! Nous sommes en pleine semaine de florilège, ce
Exactement.
Qui indique que tous les jours, et donc aujourd'hui lundi, nous recevons Frédéric Fromet à la fin de l'émission.
Eh bien, il vient chanter, comme chaque vendredi en studio, et ce vendredi-là, il y avait toute une classe de collège, me semble-t-il, qui était content parce que Frédéric Fromet a repris l'une de leurs idoles, Maître Gims.
Eh bien, je sais pourquoi Jack Lang a reçu en cadeau 200 000 euros de costume. C'est parce qu'il est fan de Maître Gims. Sapé comme Jack Lang, sapé comme Jack Lang, sapé comme Jack Lang, sapé comme Jack Lang. Toi tes costumes c'est des smaltos, c'est pas des Jules, c'est pas des Célio, t'es pas un bolos, t'es pas un clodo, tu déchires grave non Colmao, t'es tellement classe, t'es tellement beau, tu vaux plus que 200 000 euros, c'est normal qu'on te fasse des cadeaux, t'as plus la vibe qu'André Malraux, je gollerie espèce de mytho, ça sent l'embrouille, c'est quoi ce pipeau, comment veux-tu qu'on te croie réglo, t'es un ami de Laurent Gbagbo, oh les mains, rends les fringues ou allonge les bifetons, oh les mains, les Jack Lang et les François Fillon, oh les mains, pour moins que ça y a des gens en prison, oh les mains, franchement dans quel monde vit-on, paye tes costumes, Je suis sûr que t'as de la thune. Si tu veux défiler sur un podium, ce serait celui du culotté, ça comme paye tes costumes. Sapé comme Jack Lang, sapé comme Jack Lang. Tout le monde sapé comme Jack Lang, sapé comme Jack Lang. Hermès Louboutin, Christian Dior, Pierre Cardin, la croix Lapidus, mais jamais Emmaüs. T'es pas tout seul, on connaît Dati, qui ne s'habille pas chez Tati. Elle kiffe plutôt les rebords de prix qu'on lui prête, mais elle oublie de les rendre qu'elle étourdit. Y'a aussi Fillon, je l'ai déjà dit, y'a t'es pourri par Robert Bourgi. Mais toi t'es le boss en catégorie, 200 000 boules sans contrepartie. Comme si Smalto dans le tout Paris n'avait pas trouvé meilleur égérie. Moi aussi j'ai ri. Oh les mains, rends les fringues ou fais péter la gold. Oh les mains, t'es Jack Lang, t'es pas si Microford. Oh les mains, fais enfin une chose bien dans ta vie. Oh les mains, la fête de la musique c'est pourri. Paye tes costards, j'parie que t'as des dollars. À l'Institut du Monde Arabe, t'es tellement louche que je parie que tu magouilles aussi pour les babouches. Paye tes costards. Sapé comme Jack Lang. Sapé sans payer. C'est chier, non?
Voilà Alex, le premier épisode des Vacances de l'Humour touche à sa fin.
Dites-moi qu'il y en a un second.
Oui, le deuxième volet s'écrira demain avec deux autres linguistes belges, ceux-là. Un petit peu fous, ils trollent la langue française dans un spectacle. Et puis une spécialiste à sa manière de la langue, des mots, Anne Sylvestre.
La chance.
À demain.
À demain.